pose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète. C'est qu'on a pu tourner en rond, on n'aurait pas perdu son temps, unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses.
Toutes ces thématiques. Il y a Laure Verquet qui depuis il y a quelques interventions qui sont mises en avant. Parler aussi des nouvelles masculinités avec les liens avec les conservateurs et les néolibéraux. Aux intersyndicales, quel impact peut avoir les.
C'est quoi les intersyndicales?
Radio Libertaire 89.4, vous êtes à l'écoute de l'émission Remue-ménage féministe et nous sommes le mardi 18 mars 2025. Au menu de l'émission d'aujourd'hui, vous allez avoir tout d'abord un retour sur le 8 mars, ensuite la présentation des journées intersyndicales femmes qui se dérouleront les 3 et 4 avril prochains, avec la présentation notamment du programme par Julie de l'Union syndicale solidaire. Et la troisième partie de l'émission sera consacrée à un fémage à Ghislaine Gauvry, une militante féministe et syndicaliste du Loiret, plus précisément à Orléans. Mais tout d'abord, je vais vous lire le communiqué de grève féministe pour, en bilan de la manifestation du 8 mars. La journée internationale de lutte pour les droits des femmes a été un énorme succès sur tout le territoire. Les manifestations ont regroupé plus de 120 000 participantes et participants à Paris et plus de 250 000 partout en France, avec plus de 200 initiatives. Toutes ces mobilisations étaient déterminées, revendicatives et dynamiques. Elles ont été aussi l'occasion de rappeler nos valeurs de paix juste et durable et de solidarité internationale à l'heure où partout dans le monde, nos droits sont directement visés par des pouvoirs autoritaires, ouvertement masculinistes, théocratiques ou militaro-nationalistes. En France, la lutte contre les idées d'extrême droite qui prônent la haine de l'autre, le racisme, la misogynie, les phobies contre les personnes gays, lesbiennes, trans, etc., le validisme ont également été au centre de nos mobilisations du 8 mars. À Paris, nous dénonçons la tentative d'intrusion du collectif identitaire d'extrême droite Némésis qui instrumentalise les droits des femmes à des fins racistes. Heureusement, la détermination des très nombreuses et très nombreux manifestantes et leurs slogans antiracistes et antifascistes les ont empêchés de rejoindre le cortège. Nous dénonçons l'attitude des forces de l'ordre qui ont chargé de façon violente à plusieurs reprises le service de protection de la manifestation. Cela n'a pas empêché le succès. Les féministes ont porté leurs revendications haut et fort pour gagner l'égalité dans la vie, dans la société, au travail. Et la mobilisation continuera. Le 8 mars, c'est toute l'année. Nous appelons l'ensemble du mouvement féministe à se saisir de la date du 22 mars pour la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, pour un autre projet de société humaniste, solidaire et égalitaire. Je vais vous lire maintenant le communiqué de presse de l'Union syndicale solidaire à la suite de cette même manifestation. Pas de fascistes dans nos manifestations. Le 8 mars a été une grande réussite de par le nombre et la diversité des 10 participantes et participants sur l'ensemble du territoire. Cependant, à Paris, nous avons à dénoncer les tentatives d'intrusion du collectif identitaire d'extrême droite Némésis qui instrumentalise les droits des femmes à des fins racistes. Heureusement, de nombreuses et nombreux manifestantes et leurs slogans antifascistes et antiracistes les ont empêchés de rejoindre la manifestation. La préfecture de Paris était prévenue que ce collectif n'était aucunement accepté et était antinomique avec les valeurs portées par la manifestation. Nous dénonçons l'attitude des forces de l'ordre qui ont chargé de manière violente à plusieurs reprises le service de protection des manifestantes. Plusieurs militantes ont été extirpées sans ménagement de cette ligne de protection suite à ces charges, dont un camarade de Solidaires. Après une nuit de garde à vue, notre camarade est sorti sans aucune poursuite. D'autres sont encore à cette heure-ci, le 9 mars à 17h, en garde à vue. Solidaires condamne ces procédés violents et choquants envers le service de protection d'une manifestation. Nous remercions les camarades qui y ont participé. Sans elles et eux, ce sont des dizaines de milliers de manifestantes qui auraient été chargées. Nous condamnons aussi le fait que la préfecture a encore une fois décidé de protéger et accompagner un groupuscule d'extrême droite dans une manifestation féministe plutôt que de leur en interdire l'accès. Eh oui, c'est un vrai problème ce collectif. Pour mieux le connaître, je vous propose de lire des extraits d'un article signé Caroline Pernès, publié par Télérama le 7 mars dernier. Comment le collectif Snémésis s'est-il formé ? Alors c'est la journaliste Caroline Pérez qui interroge une chercheuse, Magali de la Souda. Voilà ce que répond Magali de la Souda. Le collectif Snémésis est né à l'été 2019 d'une rencontre de jeunes femmes qui fréquentaient une page Facebook Bellica et une messagerie privée animée par l'influenceuse identitaire Solveig Mineo. Celle-ci s'est notamment fait connaître au moment de l'affaire Mila en affirmant que les féministes actuelles ne défendaient pas de manière adéquate les femmes dont les droits fondamentaux seraient menacés par l'immigration et en particulier par l'islam. Elles réalisent leur premier coup à l'automne 2019 en faisant irruption dans l'un des premiers grands cortèges post-MeToo, en brandissant des pancartes présentant les hommes issus de l'immigration comme les premiers auteurs de violences sexistes et sexuelles. On voit bien dans l'affaire Pellico que ce n'est pas vraiment le cas. Elles sont écartées de la manifestation, filment l'événement et entretiennent ensuite un discours de victimisation dans les médias conservateurs. Caroline Pernès demande à la chercheuse Magali de la Souda quel est le profil de ces militantes. Alice Cordier, la présidente du collectif, revendique 300 militantes, mais quand on regarde le nombre de personnes impliquées dans les actions, elles sont plutôt 30 ou 80, assez jeunes, entre 20 et 30 ans. En revanche, elles sont très professionnalisées et certaines sont même payées pour ces actions. Car Némésis a les moyens de payer un service d'ordre professionnel privé, de financer les déplacements de ces actions spectaculaires, car elles bénéficient de soutien logistique, médiatique et matériel, puissant et assumé. Autre question, sont-elles intégrées parmi les autres groupes nationalistes ? Elles occupent aujourd'hui une place hégémonique, après avoir remplacé les Antigones, qui représentaient le creuset des nouvelles femmes de droite de 2013 à 2017. Le collectif fait néanmoins débat depuis sa création. Les influenceurs nationalistes et d'extrême droite sont à la fois heureux de voir arriver des femmes dans leur rang, mais ont du mal à partager le pouvoir. Qui pourrait en douter ? Les militantes de Némésis sont jeunes. Elles ont été socialisées dans un monde où les valeurs d'égalité dominent et n'ont pas envie de s'en laisser compter, y compris par les hommes de leur propre bord. Une altercation entre Alice Cordier et l'influenceur d'extrême droite Baptiste Marchais en décembre 21, pendant laquelle il l'avait giflé, illustre bien les tensions internes au mouvement nationaliste sur la question de la place des femmes. Némésis a plusieurs fois infiltré les manifestations féministes, comme on l'a notamment observé en novembre dernier et dernièrement le 8 mars. En effet, elles ont une stratégie parasitaire. Elles utilisent les grandes manifestations féministes pour mieux faire passer leur message. Elles arrivent incognito, toujours accompagnées d'un service d'ordre, militant ou professionnel, et brandissent des pancartes anti-immigration à des fins provocatrices. Elles emploient cette méthode quand elles sont en réalité très peu nombreuses. Leur stratégie parasitaire vise à empêcher d'entendre ce que les femmes féministes auront à dire ce 8 mars sur l'accès à la santé reproductive. Rappelons que la France a perdu les trois quarts de ses maternités en 50 ans, mais aussi sur la contraception et l'avortement, les inégalités économique ou la réforme des retraites. En agissant ainsi, elle détourne les regards du fond, c'est-à-dire du fait qu'il y a encore aujourd'hui de sérieuses raisons de se battre pour les droits des femmes. Autre information, sur le 8 mars, nous avons appris avec plaisir qu'à Lviv, une ville de l'ouest de l'Ukraine, une marche féministe a eu lieu à l'initiative de deux groupes, l'Atelier Féministe et Bilkis. Pour ces deux organisations, cette marche était dédiée au thème de la violence et au harcèlement sexuel à l'égard des femmes dans des établissements d'enseignement, les théâtres et autres institutions. Les sujets qui ont été soulevés étaient présents les années précédentes, en particulier sur la lutte contre le harcèlement sexuel dans les salles de cinéma. La marche a réuni des dizaines de militantes, de militants, de jeunes qui ont arpenté les rues de Lille en chantant des slogans. Cherchez la justice, pas les femmes. Liberté, égalité, solidarité des femmes. Voyez la violence, ne vous taisez pas. La sécurité des femmes est toujours à l'heure. On voit bien par là que le 8 mars est toujours international. Autre bonne nouvelle qui nous vient cette fois de Varsovie. Les militantes féministes de Varsovie ont ouvert le 8 mars un centre d'avortement. À 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle, les activistes espèrent convaincre le gouvernement du Premier ministre Donald Tusk de libéraliser la législation qui est la plus restrictive de l'Union européenne dans ce domaine. Il y avait foule ce samedi 8 mars dans ce local coloré qui fait face à la Diet, la chambre basse du Parlement polonais, en plein centre de Varsovie. 5 jours sur 7, des activistes donneront des renseignements sur les possibilités de procéder à un avortement en Pologne ou à l'étranger. Il sera également possible de faire un test de grossesse ou de se faire accompagner sur place pour procéder à son propre avortement médicamenteux grâce à des pilules que les intéressés auront reçues au préalable via une structure partenaire « Women Help Women », des femmes aident des femmes. Ce centre est une première dans un pays disposant d'une législation draconienne en matière d'interruption volontaire de grossesse. Alors qu'il était autorisé sous le régime communiste jusqu'à la fin des années 80, l'avortement a été strictement encadré en 1993 pour n'être plus légal que si la grossesse était consécutive à un viol ou si elle constituait un danger pour la santé de la femme ou s'il y avait malformation grave du fœtus. Mais depuis 2021, il n'est plus autorisé que l'un des deux premiers cas. Si la loi polonaise n'interdit pas à une femme de procéder à une IVG par ses propres moyens, elle criminalise en revanche toute aide à l'avortement. Alors qu'une proposition de loi prévoyant la dépénalisation a échoué au Parlement en juillet 2024 à 3 voix près. Des 27 États membres de l'Union européenne, la Pologne est celui qui a la législation la plus restrictive dans ce domaine. Le choix d'ouvrir ce centre, en plein centre de Varsovie, le samedi 8 mars, n'est pas fortuit. En effet, alors à 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle prévue le 18 mai, alors que le sujet de l'avortement est absent de la campagne qui commence et qu'aucune libéralisation n'a eu lieu depuis que Donald Tusk est arrivé au pouvoir, malgré ses promesses, Nadia Broniarz, militante de l'association ADT, espère qu'elles verront des avancées grâce à ces mobilisations.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisées, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, prime les femmes, ensemble libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère des femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Radio Libertaire, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Remue-Ménage féministe. Nous sommes le mardi 18 mars 2025, après ce retour sur la manifestation du 8 mars de cette année, qui a été vraiment un succès incroyable. Je pense, de mémoire de féministe, que c'est le plus grand 8 mars en France depuis qu'on manifeste cette date-là. Voilà, tout le monde en est content et on espère continuer sur cette vague féministe. Je vous propose maintenant l'interview de Julie Ferrua, porte-parole de l'Union syndicale solidaire, qui va vous présenter les journées intersyndicales femmes qui vont avoir lieu en début avril prochain.
Canon à vendre, avec votre ferraille, on forge ces engins qui foutront la pagaille parmi...
On se retrouve tout ensemble après le 8 mars, là, on va se retrouver après les intersyndicales, et on va rien lâcher, on va continuer de lutter, on va continuer de militer, on va continuer de croiser nos luttes, on va continuer d'avancer pour avancer sur nos droits et faire reculer le patriarcat.
Beau programme.
Voilà, beau programme.
Et alors, combien ça coûte, cette affaire?
Ah, oui, alors, oui. Cette affaire, les intersyndicales femmes, j'ai pas de chiffres fixes. Par contre, je peux dire que, par exemple, sur celle de l'année dernière, ça a coûté autour de 5000 euros pour ce qui était de l'organisation des tables rondes. Alors, ça peut paraître un peu élevé, parce que
deux jours,
les intervenants ne sont pas rémunérés, mais par contre, on prend en charge tous leurs défraiements.
Le déplacement. Si quelqu'un vient du Québec, c'est pas pareil que si elle vient de Paris-Banlieue.
Voilà, et on essaie toujours, effectivement, de faire venir une à deux copines de l'international sur des thématiques. Et donc, forcément, ça a un coût. Ça a un coût aussi en hébergement. Donc, voilà. Donc là, et puis, on propose aussi un petit apéritif, en général le soir, le jeudi soir. Et ça aussi, c'est un petit coût. Voilà. Donc, c'est... 5000 euros, c'est le coût des deux jours, des tables rondes. Et après, nous, par exemple, à Solidaire, c'est notre organisme de formation qui rembourse les frais d'hébergement. Et ce sont les syndicats locaux qui remboursent les frais de route. Il y a une partie, c'est ou les solidaires locaux, et l'autre, c'est l'organisme de formation qui prend entre les frais de route et les frais d'hébergement.
Donc, si nous avons des auditrices ou des auditeurs qui sont intéressés par venir, comment ils font ?
Et bien alors, il faut qu'ils aillent sur le site de Solidaire, dans la partie formation, et vous tapez intersyndicale femmes. Et là, vous allez avoir toutes les indications de savoir comment vous vous inscrivez. Donc en général, ce n'est pas d'inscription individuelle. On passe ou par sa structure locale, ou par sa structure nationale, ou par son CFI local. Voilà.
Ou par la CGT ou la FSU.
Ou par la CGT, voilà.
Si on est adhérente
à la CGT
ou à la FSU. Organisations, ou plus proche.
De ces
organisations, parce que...
Parce qu'il n'y a pas que des syndicalistes qui participent aux Il n'y a pas que des syndicalistes qui participent aux intersyndicales femmes, effectivement. Donc, voilà.
Mais par contre, il faut être sympathisante, mais il faut quand même passer par une organisation.
Voilà. Et donc, cette année, on va vraiment demander à toutes et tous de s'inscrire, parce que la salle est plus petite. L'année dernière, on était à la salle Olem de Gouges sur Paris, qui peut accueillir jusqu'à 600 personnes. Et l'année dernière, on devait être pas loin de 500. Et là, on redescend à 350 personnes. Donc, on va vraiment demander, même aux militantes non syndicales, je pense notamment à des copines du CNDF, par exemple, qui participent chaque année aux intersyndicales femmes. Voilà, de vraiment penser à s'inscrire cette année, parce que, parce qu'en fait, on a une jauge qui est limitée à 350 personnes, quoi. C'est un peu dommage.
Merci.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Remue-Ménage féministe et nous sommes le mardi 18 mars 2025. Après un retour sur la magnifique manifestation du 8 mars, je vous ai fait écouter une partie de l'interview de Julie Ferrua pour parler des journées intersyndicales femmes. Mais je ne suis pas très familière de la technique et j'ai passé le deuxième fichier avant le premier, et voici donc le premier fichier. Les pauses musicales que j'ai mises entre les différentes interventions, la première c'était l'hymne des femmes interprété par les choraleuses, une chorale de Toulouse, et là vous venez d'entendre Claude Michel, une chanteuse originaire et vivant en Bretagne, qui nous a malheureusement quittés il y a quelque temps. Et cette chanson, vous la devinez, s'appelle « Mais qu'est-ce qu'elles veulent encore ?» Mais tout de suite, Julie Ferrua.
Julie, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Je t'interview aujourd'hui pour l'émission Remue-Ménage féministe sur Radio Libertaire. Et je souhaiterais que tu nous présentes les journées intersyndicales femmes qui vont se tenir prochainement, en avril 2025. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de l'actualité, je voudrais que tu nous rappelles quand et comment sont créées ces journées intersyndicales femmes.
Alors, ces journées intersyndicales femmes, la toute première session date de 1997. Et à l'époque, elle était impulsée donc par des syndicats de ceux qui allaient devenir solidaires, parce qu'à l'époque c'était le groupe des 10, Solidaires n'existait pas en tant qu'entité solidaire, par la FSU, par des syndicats de la CGT et quelques syndicats de la CFDT. Donc ces journées-là, elles ont été créées pour faire le lien entre féminisme et syndicalisme, voir comment ces deux luttes-là se rejoignaient sur le terrain, en fait. Et moi, j'aime beaucoup y aller. Alors, j'étais pas en 97, hein, j'étais...
T'étais pas née, presque.
Alors, j'étais née, mais j'étais au début du lycée, donc voilà. Je ne savais pas qu'un jour je serais syndicaliste, mais j'étais déjà féministe, donc... Voilà, mais oui, donc ces journées-là, voilà, ça existe depuis 97 et depuis, ça a lieu tous les ans, en général fin mars, début avril. Il n'y a pas eu une année qui a manqué. Il y a eu une année qui a manqué, l'année du confinement, l'année de 2020, parce qu'on a été confinés juste avant et que là, c'était pas possible de reporter les intersyndicales. Et en 2021,
on n'a pas encore les moyens de l'organiser en vidéo à cette échelle-là.
À cette échelle-là. Et puis, alors en 2021, on a pu faire du coup en visio total les intersyndicales femmes. Mais en 2020, le confinement avait été décrété moins de 10 jours avant les intersyndicales. C'était impossible de faire. Donc, c'était un peu notre déception pour 2020. Mais c'est pas grave. Du coup, les intersyndicales femmes ont plus de 20 ans aujourd'hui. Parce qu'elles ont fait 20 ans du coup en 2017, où on a sorti le livre Tout à y gagner, qui est toujours disponible sur la plateforme de livraison de Solidaires et qui est aussi disponible, je pense, dans plusieurs librairies. En fait, il faut juste taper Tout à y gagner, 20 ans de féminisme intersyndical. Et puis vous trouverez ce livre qui est toujours disponible.
Et qui est très intéressant parce qu'en fait il reprend les interventions pour chaque année, pas toutes les interventions, mais l'essentiel des interventions.
C'est exactement ça, il reprend en tout cas toutes les thématiques. Et puis il y a quelques interventions qui sont mises en avant, ou des parties d'interventions qui sont mises en avant avec toutes celles qui ont participé aux intersyndicales femmes. Alors, c'est quoi les intersyndicales femmes? En fait, les intersyndicales femmes... Donc, comme je l'ai dit, c'est pour allier les luttes féministes et syndicales. Et puis, elles se construisent autour de 4 tables rondes, donc 4 demi-journées, 4 tables rondes avec des thématiques différentes, où on invite à la fois des chercheuses, des sociologues, des ergonomes du travail, mais des syndicalistes, des féministes, enfin, pour discuter d'une thématique donnée.
Et du coup, ça permet de donner beaucoup d'arguments aux copines et aux quelques copains qui viennent pour développer leur mobilisation après dans leur secteur professionnel, leur secteur d'intervention.
C'est exactement ça. Et on essaie toujours... Alors, il y a toujours des thématiques plus larges, plus éloignées du travail. Mais il y a aussi, par exemple, l'année dernière, on a beaucoup parlé, il y avait toute une thématique autour de la grossophobie. Alors, ça a un impact sur le travail, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus large que ce qu'est la grossophobie, l'impact sur l'ensemble de la société, hein, voilà. Et puis souvent, on axe vraiment une table ronde autour du travail. Par exemple, on avait fait au moment où il y a eu la convention 190 de l'OIT, de l'Organisation Internationale du Travail, qui était une convention qu'on portait depuis très longtemps avec la CGT et la FSU, qui est la mise en place de mesures contraignantes dans le cadre des violences sexistes et sexuelles, et ce, qu'elles aient lieu au travail ou dans l'ensemble de la société. Parce que comme on l'a dit lors de l'interview autour du 8 mars, les violences sexistes et sexuelles, certes, des fois, elles n'ont pas lieu au travail, mais quand elles ont lieu en dehors du travail, elles ont aussi un impact sur le monde du travail, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, donc ça fait partie des choses que l'on porte lors des intersyndicales.
Est-ce que tu te souviens de ta première intersyndicale ?
Alors, mes premières intersyndicales femmes, pour moi, c'était 2013. C'était à la Bourse du Travail à Paris, la salle ENAF, avant qu'elle soit rénovée. Parce que je crois que c'est juste après... Non, c'est en 2013, ouais, on est encore dans cette salle-là. 2014, on a aussi fait dans la salle ENAF. Et l'année qui a suivi, le plafond menaçait de s'effondrer. Et du coup, on avait fait à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Voilà. Et je pense que je n'ai loupé aucune session depuis 2013.
Et dans ton souvenir, quelle est la séance qui t'a le plus touchée ?
Ah, il y en a beaucoup, mais je pense que l'une de celles qui m'a le plus marquée, ça devait être à la Bourse du Travail, et ça devait être en 2018, je pense. Enfin, je repense à deux choses qui m'ont marquée. Il y avait trois, enfin, au fur et à mesure, il y en a plus, de plus en plus qui viennent. Alors, notamment, il y avait un témoignage d'une copine, d'une camarade congolaise, qui racontait les violences sexistes et sexuelles dans son pays, et avec la problématique qu'elle pouvait être violée à tout moment quand elle se rendait au travail. C'était un témoignage assez fort. Donc ça, c'est un des témoignages qui m'a le plus marqué. Il y a eu le témoignage aussi des camarades d'une camarade syndicaliste des maisons de retraite du Pays Basque, qui m'a beaucoup marqué, parce que elles nous ont raconté comment est-ce qu'elles avaient mené la lutte pendant, c'est une lutte qui a duré pendant presque un an, pour revendiquer une augmentation de salaire dans les maisons de retraite privées. Alors, je précise privées parce que c'est comme chez nous, il y a des maisons de retraite privées et d'autres publiques. Et il y avait de très très forts écarts de salaire entre les maisons de retraite privées et les maisons de retraite publiques. Et donc voilà, donc elles ont manifesté pendant, avec des manifestations régulières, en joignant l'ensemble de la population à ces mobilisations-là. Et avec avec un gros focus, ça arrivait, le point culminant, c'était le 8 mars du coup 2018 pour elles, qui a été du coup un très gros 8 mars en Espagne, qui est sûrement l'un des plus gros qu'il puisse y avoir aujourd'hui, je pense, dans le monde actuel, enfin de ces dernières années en tout cas. Et voilà. Et donc c'est vrai que ce témoignage était aussi très fort pour raconter cette lutte-là qui a duré sur le temps, et comment est-ce qu'on construit une lutte à la fois en associant des revendications féministes, en associant l'ensemble de la population, en associant le monde du travail, et voilà. Et je trouvais que c'était génial la façon dont vous avez mené cette lutte.
C'est surtout qu'en plus, elles ont gagné.
Et elles ont gagné, voilà. Et en plus, c'était une lutte qui a été victorieuse. Donc voilà, donc du coup, c'était vraiment, cet échange-là était vraiment très fort. Et autre intervention qui m'avait beaucoup marquée, et, qui est l'intervention d'une militante de l'association When Men on Waves, et qui est une association qui lutte pour faciliter l'accès et le droit à l'IVG, mais plutôt l'accès à l'IVG dans les pays où l'IVG n'est pas légal. Voilà, et donc elle nous racontait les actions qu'elle faisait.
Par exemple, de mobiliser un bateau.
Exactement.
Dans les eaux territoriales.
Voilà, donc elle nous avait raconté que, effectivement, au large de. Alors je crois que c'était au large de l'Argentine.
Et puis de la Pologne.
Et de la Pologne. Alors la Pologne, c'était pas les bateaux. L'Argentine, c'était les bateaux où, effectivement, ils avaient mis des bateaux dans les eaux territoriales.
Dans les eaux internationales.
Oui, dans les eaux internationales, voilà, c'est ça. Dans les eaux internationales. Et en fait, pour que les femmes puissent aller avorter, du coup, dans les eaux internationales et revenir. Donc après, elle disait que c'était plus pour un coup médiatique, vraiment, voilà, de montrer ce qu'elle pouvait faire. Et en Pologne, ce qu'elles avaient fait, c'est qu'elles avaient envoyé des drones avec des pilules abortives.
Ça, c'est leur deuxième action, mais la première, c'était aussi un bateau sur le nord de la Pologne, dans la Baltique.
Ah oui, effectivement, je me rappelle maintenant. Oui.
Mais les drones aussi.
Les drones, c'était, je trouve ça aussi pas mal pour envoyer des pilules abortives.
C'est d'ailleurs des actions qui existent aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, c'est d'envoyer soit par drone, soit par la poste des pilules abortives, et pour permettre aux femmes d'avorter dans les États qui l'ont interdit. Et c'est vrai que c'est là où on voit le bénéfice de l'avancée de l'IVG médicamenteuse. Parce qu'avant, quand on n'avait pas le médicament, il fallait avorter dans un centre de soins avec des intervenants professionnels ou militants. Ça ne pouvait pas se faire aussi facilement.
C'est pas la fin des haricots, c'est le début des emmerdements. Gloire à tous les petits boulots, vive le sacre du plein temps. Au nom du pèse, du fric et du saint grisby, je donnerai cher pour être riche. Pognon, fric, oseille, artiche, j'ai le no flues blues. Oui, j'ai le no flues blues. No flues blues. C'est ça le no flues blues. Mais comment dire à sa banquière qu'on a surtout gagné du temps? Moi, si j'ai vendu père et mère, après tout, c'est que pour l'argent. C'est pas de ma faute, j'en veux des tonnes. Mais l'homme est un relou pour l'homme. Et j'ai le no flues blues. J'ai dû me lever le matin, avant midi. J'ai pris des risques. Et puis comme le travail des uns fait toujours le bonheur du fisc, il faut voir la gueule de l'emploi. J'ai fait chômeuse à plein temps, et puis femme de ménage à trois. Mais à laisser, c'est gratifiant. Oui, enfin bref, toutes les besognes. Et même la belle au bois de Boulogne. Au nom du pèse, du fric et du saint grisby, je donnerai cher pour être riche. Pognon, fric, oseille, artiche, j'ai le no flues blues. Ouais, j'ai le no flues blues. No flues blues. C'est ça le no flues blues. Mais comment dire à ses amis qu'on leur devra toujours des ronds? La seule chose qui différencie le riche du pauvre, c'est le pognon. Du coup, je rumine mes angoisses, mais bon, ça nourrit pas des masses. Alors le no flues blues, c'est pas tôt, j'ai dans les dettes, parce que le vol, c'est pas prudent. Puis l'important, c'est d'être honnête quand on peut pas faire autrement. Alors bien sûr, mon compte est vide, mais pour un précaire parvenu, faut bien avouer que le liquide, c'est surtout fait pour être bu. Ça sert à rien, mais ça soulage quant à la bosse du chômage. Au nom du pèse, du fric et du saint grisby, je donnerai cher pour être riche. Pognon, fric, oseille, artiche, j'ai le no flues blues. Ouais, j'ai le no flues blues. No flues blues. C'est ça le no flues blues. Et puis comment dire aux impôts qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie? Les fringues, les pompes et les restos, j'y peux rien si c'est pas gratuit. Et puis d'abord, c'est personnel si j'ai des frais super réels. Et puis le no flues blues, j'irai du côté obscur de la force d'inertie. Jusque-là, j'étais bien trop pure. Surtout qu'en toute modestie, gagner sa vie sans rien branler à la seule force du poignet, c'est tout un art évidemment. Et si la thune vient en dormant, oui, je prendrai quelques mécènes et l'Helvétie pour une lanterne. Au nom du pèse, du fric et du saint grisby, je donnerai cher pour être riche. Pognon, fric, oseille, artiche, et j'ai le no flues blues. Ouais, j'ai le no flues blues. No flues blues. C'est ça le no flues blues. Et vu qu'en plus on est nombreux, c'est pas la joie, mais pour info, si le monde appartient à ceux dont les employés se lèvent tôt, alors on était prévenus. Chance promise, chôme due.
Jour pour jour d'ailleurs. Et bon, Donc ces obsèques ont lieu en Vendée, à La Roche-sur-Yon, c'est un peu loin. Quelques-unes ici ont fait le voyage et sont venues témoigner de son engagement féministe, et je les en remercie. Et je vous remercie également les organisatrices et tous ceux qui sont là d'avoir participé à ce sommage pour elles, qui, je pense, représente une partie importante de sa vie. Pour ma part, j'ai partagé 4 décennies, 40 années de vie commune, et donc, que dire, je ne veux pas vous parler de ces engagements, vous avez parlé mieux que je ne pourrais le faire. Je peux témoigner du fait que la maladie l'a touché il y a maintenant plus de 2 ans. Malheureusement, il a fallu un certain temps avant que des visites à l'hôpital d'Orléans, etc., sans qu'on sache trop ce qu'elle avait. Et donc il a fallu près de 10 mois et un AVC pour qu'on ait enfin un diagnostic et qu'on puisse mettre en place un traitement à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Certaines d'entre vous ont évoqué le fait que malgré la maladie, elle était restée toujours présente. Elle a connu des semaines difficiles autour de début de l'année 2024, enfin fin 2023, début 2024, où bon, elle a passé 2 mois quasiment à l'hôpital. Finalement, on peut s'en réjouir, elle en est sortie, et l'année 2024 a été une année quand même dont elle a pu profiter. Difficile au début, difficilement au début, et puis ça allait en s'améliorant. Et donc à la fin, elle était dans un état d'esprit plutôt positif et optimiste. On a pu voyager, refaire des projets. Bon, et malheureusement, il y a eu une infection qui brutalement a profité du fait qu'elle était affaiblie par la maladie. Et c'est ça qui l'a emporté. On peut dire qu'un an avant, on s'attendait presque à la fin, et par contre, au moment où c'est arrivé, quelque part, on s'y attendait plus. Enfin, on s'y attendait plus, en tout cas, moins. Voilà. En tout cas, bon, c'est vrai qu'elle a affronté courageusement la maladie, y compris dans les moments les plus difficiles, et que, bien sûr, elle était pressée de reprendre ses activités et ses contacts dès qu'elle a pu. Voilà, donc je pourrais dire, encore une fois, en vous remerciant de votre présence et de vos pensées pour elle, n'oublierons pas.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Remue-Ménage féministe du 18 mars 2025. Vous venez d'entendre la prise de parole de Jean-François, le compagnon de Ghislaine Gauvry. Ghislaine Gauvry est une militante syndicaliste et féministe du Loiret, qui malheureusement, comme vous l'avez compris, est décédée le 15 décembre dernier à la suite d'une infection sur un état de santé abîmé par le cancer. Je suis allée au fémage qui lui a été rendu dans son organisation et syndicale et son association féministe en tout genre 45, et je vous propose maintenant un autre témoignage.
Je suis partie. des moments d'échange où on se retrouvait pour discuter un peu de la position de nos syndicats respectifs avec lesquels nous n'avions pas forcément toujours des accords et comment on pouvait ensemble essayer de pousser dans telle ou telle direction ou ligne. Et ça, c'est vrai que c'était quand même ça qui arrivait très souvent. Et moi, ça va me manquer beaucoup parce qu'il y avait une analyse commune autour de. Y compris par rapport à des divergences qui permettaient d'avoir un endroit ensemble où on pouvait progresser.
Avec Cathy, on n'a rien préparé.
Non, on s'était dit qu'on allait prendre la parole. Parce que pour nous, Ghislaine, c'est la commission femme de Solidaire. Ouais.
Créée en 2011, septembre 2011.
Donc, moi, j'ai parfait souvenir de quand on souhaitait monter une commission femme à Solidaire. J'ai parfait souvenir des camarades de Sud PTT qui me disent « Écoute, il faut que tu rencontres Ghislaine. On ne se connaissait pas. » Et je me souviens que ce premier rendez-vous, c'était à la Vibe de Bois à Orléans. On s'est rencontrés pour la première fois en disant « Donc, toi aussi, tu veux monter une commission femme ?» Donc, c'est parti. Et très rapidement, on a eu des débuts. Et ça a été un vrai lieu d'échange.
Oui, et puis ce qui était incroyable, enfin moi je sais qu'elle a participé à notre prise de conscience féministe, même si elle était déjà mais un petit peu enfouie, mine de rien. Ce qui était incroyable, c'est par rapport à la au personnage, c'est qu'elle avait une ouverture, elle était vraiment quête de savoir réactualiser, c'était pas sur un vieux féminisme. Et donc, il y avait une ouverture,
elle était en phase.
Une écoute, elle était en phase. Voilà, c'est exactement ça. Et finalement, on a fait plein de choses ensemble. Le droit des femmes contre les extrêmes droites, la tournée des femmes d'Europe contre la dette, enfin des gros trucs quand même. C'est vrai que des fois, elle ne voulait pas forcément prendre la parole, alors qu'elle avait plein de choses à dire, c'est une sorte de pudeur peut-être. Et donc, je me rappelle qu'elle m'avait accompagné la radio, parce que je dis, ah non, mais je veux pas y aller comme ça, je me sens pas, et je t'accompagne. Donc, c'est aussi soutenir, accompagner, enfin, elle était très inclusive, et toujours en questionnement.
Ça, c'est quelque chose qu'on retiendra. Oui. Et puis, moi, je suis assez sensible à ce que vous avez dit, parce que c'est quelque chose qu'on a pu retrouver à chaque fois, par rapport aux difficultés qu'on a pu rencontrer, nous, avec la commission femmes. Je sais que c'est toujours quelqu'un qui a été soutenante. À sa manière et dans la discussion, et de dire, redonner à un moment donné, on a traversé des moments où on se dit on en a marre en fait, oui. Et à dire on le fait, on discute, on se pose et on se redonne la force. Je pense qu'en ce moment c'est important ça. C'est quelque chose aussi qui me manque, cette oreille, cette écoute et cet échange. Et en même temps, elle a été. Ce croisement de toutes ces rencontres qu'on a pu faire, qui sont là aussi, qui se poursuivent sous différents chemins. Mais on sait les unes les autres qu'on est là, on est ensemble sur ces moments de lutte qui vont continuer, ça c'est sûr. Et voilà, elle était là.
Ah, le mot soutenant, c'est vraiment ça en fait, parce qu'à chaque fois que tu poses des questions, même si on n'était pas forcément toujours d'accord à un moment, il y avait toujours une évolution. Par l'écoute, par l'échange, et c'est vrai qu'elle avait une détermination sans faille qui justement te mobilisait aussi quand des fois tu baisses un peu les bras, donc c'est important, mais elle est toujours avec nous quelque part. Et le meilleur hommage qu'on peut lui rendre, c'est de continuer la lutte pour les droits des femmes. Je vois que c'est pour moi c'est une plus belle.
Elle aurait été très fière de Sweet Mars. J'y ai pensé,
on y a
tous pensé. On y a tous pensé. C'était à son image et voilà.
Oui, c'était une réussite et elle aurait été fière de participer à cette chose. C'était bien présente, je suis.
Parce que je pense qu'on y a travaillé dans son état d'esprit, en fait. C'est surtout ça. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde dit on va travailler dans le même état d'esprit, mais c'était son état d'esprit. C'est-à-dire de réussir cette journée, et que ça soit une belle journée et que tout le monde soit content. Ouais. Et je pense que ça a été le résultat de cette journée.
C'est une sorte de mère spirituelle finalement. Moi je l'entends comme ça, donc c'est vrai que c'est.
Mais en tout cas, je trouve que si le mot sororité a un sens, il trouve tout à fait son expression avec ce que
moi, ce que j'ai pu partager et vivre avec Ghislaine. Et aussi pour ce qui est de la formation syndicale, ça on n'en a pas parlé, mais on a pu mettre en place Solidaire Varennes. Et je crois que ça a été un échange ininterrompu sur ce point-là, qui était vraiment enrichissant. Donc merci.
Merci. Il y avait un grand sens d'action unitaire. Et moi, je trouve que ça, c'est quoi qui va nous porter pour le moment. Au-delà de nos divergences, il faut qu'on continue cette unité-là qu'elle portait systématiquement. En disant, attention, est-ce que vous croyez que tout le monde va bien comprendre ce que vous voulez dire? Il faut rassembler, il faut être unitaire. Ça ne veut pas dire laisser en bas ces revendications, ça veut dire réussir à les porter et arrêter de se diviser sur des choses qui finalement divisent le mouvement. Et elle était vraiment porteuse de ça.
Vous entendez? Vous venez d'entendre des témoignages de Lynn, Valérie et Cathy, une des amies de Ghislaine Gouvry, à qui nous rendons hommage au cours de cette émission. Je vais vous faire entendre maintenant un autre témoignage.
Calmés, ils s'envolent en fumée avec la braise de mes mégots, mon petit égo.
Pour France Télécom, et qui était donc assez. Qui était un peu timide et tout. Et au fur et à mesure des années, des mois, des années, on voyait bien qu'elle prenait de l'assurance et que c'était quelqu'un de conviction. Et elle a amené déjà au sein de Sud PTT cet aspect féministe qu'elle défendait depuis déjà bien des années. Donc elle a commencé par réanimer le truc féministe, la commission féministe au sein de Sud PTT, puis après au sein de Solidaire, et moi après je l'ai beaucoup côtoyé dans le cadre de la formation Solidaire, où on travaillait beaucoup ensemble, et c'est grâce à elle qu'après, à chaque formation, il y avait toujours un point femme qui était évoqué. Voilà, et moi, elle me manque.
Donc, Ghislaine était une femme engagée, comme on en fait peu. Pour certaines d'entre nous, nous l'avons rencontrée au collectif des droits des femmes dans les années 2010, où se retrouvaient déjà le GAGL, le planning familial, le NID, elles aussi, les syndicats CGT, FSU Solidaire et des partis politiques. Ghislaine a coordonné les travaux de ce collectif pendant quelques années. Avec le collectif des droits des femmes, nous avons animé des 8 mars, des luttes contre les violences et pour l'avortement. Pour d'autres, la rencontre a eu lieu au planning familial. Elle est entrée au CA lors de la présidence de Dominique Trippé. Elle est partie du CA du planning familial pour des divergences profondes sur le rôle militant du planning. Elle a soutenu Sarah dans sa lutte contre un licenciement abusif reconnu par les prud'hommes. Parallèlement, les intersyndicales femmes ont fonctionné. Elle y représentait Solidaire. Elle a participé avec nombre d'entre nous à Offensive Féministe, puis au collectif féministe. Après son départ du planning, elle a souhaité créer une association féministe qui n'existait pas sur Orléans. Nous avons été plusieurs à nous embarquer avec elle dans l'aventure. Notre association, Féminisme en toujours 45, a réellement pris vie en 2020. Elle en a été la présidente jusqu'à son décès. Ce sont ses engagements qui nous ont rapprochés et au-delà nous ont permis de devenir amis.
Elle se fait au plus haut point des qualités qui ne sont que très rarement valorisées dans notre société du paraître. Derrière sa discrétion, elle répondait toujours présente avec authenticité, constance, détermination et un sens du collectif remarquable. On la connaissait extrêmement pudique pour elle-même et extrêmement attentive aux ressentis des autres. Avec sa réserve naturelle, elle savait dégager beaucoup de chaleur. Pragmatique et perspicace, elle savait nous ramener aux choses simples, rendant tout compréhensible pour tout le monde. Elle aimait s'appuyer sur des définitions précises et sur l'histoire sociale. Elle avait une qualité d'écoute bienveillante exceptionnelle et savait dépasser ses appréhensions pour faire vivre les collectifs et construire de belles choses ensemble. On appréciait son esprit de synthèse et ses qualités remarquables d'organisation. Avec elle, tout était soigneusement étudié et par conséquent, nickel. C'est ce qu'elle a fait tout au long de son parcours militant sans jamais rien lâcher. C'était une vraie bonne personne, sachant donner aux autres sans rien attendre au retour. Dans la maladie, on a retrouvé son courage, ne se plaignant jamais et n'oubliant pas de prendre régulièrement nos nouvelles.
Oui, Ghislaine. Ah oui. Moi, tu me manques. On t'aime.
Moi, si je peux dire quelques mots sur Ghislaine. Notre première rencontre, ça a été une prise de gueule. C'est ce qui faisait partie d'elle aussi. D'entendre des points de vue revendicatifs et un peu vindicatifs de ma part, comme je peux l'être. Mais c'est aussi des 1er mai où, une fois qu'on a manifesté, crié, fait du SO, mangé le barbecue de Solidaire, bah, quand tout le monde allait partir, elle nous sortait son petit rhum. Hein, on était posé dans le jardin. Et c'était les rares moments où elle pouvait parler un petit peu de sa vie privée. Et où du coup j'ai appris votre existence. Il m'a fallu plusieurs années pour savoir que vous étiez dans sa vie, parce que c'était quelqu'un de très discret. La preuve sur les photos, hein, pour avoir demandé à tout le monde de nous envoyer des photos qu'on a accrochées, beaucoup m'ont répondu, mais à chaque fois en fait elle tourne la tête, elle n'est pas sur la photo. Voilà, on a quand même réussi à la voir. Et ça, ça prouve que voilà, il y en a certaines où elle a posé. Sur la commission femmes, qui est devenue commission femmes et discrimination, pendant toute la maladie de Ghislaine, c'était important pour nous toutes et tous, parce qu'elle est mixte, de la conserver. Et deux jours avant son décès, bah, c'était un dernier message de Ghislaine qui nous envoyait son article pour le prochain flyer. Donc c'est vrai que pour nous, ce 8 mars, c'était hyper important. On a réussi à sortir le dernier flyer commission femmes et discrimination, bien sûr, en pensant à elle et au famage. Et dès qu'elle a eu suffisamment de force physique pour revenir parmi nous, bah, elle est arrivée, comme si de rien ne s'était passé pendant tout le temps de sa maladie. Comme si on l'avait vu la veille, avec toujours ses idées, ses revendications, créer justement tout ce côté collectif. Et bah, malgré le fait de sa disparition qui a été douloureuse et pour nous tous et toutes, je pense qu'elle sera toujours là. Elle sera toujours là parmi nous. Moi, j'ai aussi eu des témoignages que je vous ferai tout à l'heure de d'autres personnes qui malheureusement ne pouvaient pas être là, mais qui vraiment voulaient raconter ces petites anecdotes, parce que c'est pour ça qu'on vous a demandé des anecdotes. C'est par biais de toutes ces anecdotes qu'on va apprendre et continuer à découvrir Ghislaine, parce que finalement c'était beaucoup aussi d'individuel, à des petits moments où elle lâchait des petites bribes sur elle et sur des choses plus personnelles. Et en tout cas, elle aurait été très fière de ce 8 mars. Et tous les 8 mars lui seront dédiés. Et la prochaine date à lui dédier, c'est quand même le 1er mai aussi. Hein, parce qu'à chaque fois, elle était fervente du 1er mai avec un groupe féministe pour le 1er mai. Parce que le 1er mai est important aussi. Donc voilà, qu'elle soit dans n'importe quelle, c'est la preuve. Hein, toutes ces associations qui se sont retrouvées avec Ghislaine, collectif, etc. Ben voilà, on se retrouve tous et toutes, on se connaît pas tous et toutes. Mais en tout cas, même si on peut avoir des larmes, on va aussi avoir des sourires en pensant à Ghislaine, parce que ben voilà, il y a le petit punch de Solidaire qu'elle appréciait particulièrement. Il y a des musiques qu'elle appréciait, il y a des chansons qu'elle appréciait. Et tout ça, ça faisait Ghislaine dans toute sa splendeur et qui fera que ben voilà. Et moi, le dernier souvenir physique que j'ai d'elle, c'est quand on a improvisé la chorale des révoltés et la chorale du planning familial pour le rendu du verdict de Ghislaine. Et que, bah, elle est venue nous voir chanter alors que ça s'est improvisé en deux jours. et que j'ai revu Ghislaine encore avec les larmes aux yeux à faire mais merci, ça fait du bien. À chaque fois qu'on chante, à chaque fois qu'on crie des slogans, à chaque fois qu'on fait des actions, on l'aura dans notre tête et elle sera fière qu'on continue le combat parce que c'est ce qu'elle aurait aimé. Merci.
T'as beau faire, t'as beau faire du plat avec ton ratatla, Miss Guéguerre.
Cet enfant que je t'avais fait, pas le premier mais le second, te souviens-tu? Où l'as-tu mis, qu'en as-tu fait, celui dont j'aimais tant le nom? Te souviens-tu?
Offre-moi une cigarette, j'aime la forme de vos mains. Disiez-vous, caressez-moi encore la tête, j'ai tout mon temps jusqu'à demain. Que disiez-vous,
mais cet enfant, où l'as-tu mis? Ne fais attention à rien. Te souviens-tu? Il ne fait pas chaud aujourd'hui. L'enfant doit avoir froid ou faim. Te souviens-tu?
Vous êtes tout à fait mon type, vous devez être très ardent. Que disiez-vous? Je crois que je n'ai plus la grippe. Voulez-vous monter un moment?
Je t'en supplie, souviens-toi, où as-tu mis ce bel enfant? Te souviens-tu? Je l'avais fait rien que pour toi, ce bel enfant au corps tout blanc. Te souviens-tu?
Thank you.
Radio Libertaire 89.4. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Remue Ménage Féministe sur Radio Libertaire, comme chaque mardi de 12h30 à 14h30. Vous pouvez nous retrouver sur nos blogs, sur Mixcloud et sur Blogspot pour consulter les anciennes émissions que nous avons déjà faites depuis janvier 2020. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de Radio Libertaire. Vous venez d'entendre les témoignages de Delphine, de Anne et de Annie, des amies de Ghislaine Gauvry, à qui nous rendons fémage au cours de cette émission. Et maintenant, un nouveau témoignage.
Moi, j'ai connu Ghislaine quand je travaillais au planning familial et qu'elle était membre du conseil d'administration. Avant de rejoindre la commission femmes solidaire, avant ça. Si tu veux parler. Moi, j'ai le souvenir de quelqu'un qui est resté droite, en fait, surtout parce qu'à l'époque où j'ai travaillé au planning familial, il y a eu un licenciement abusif. Et elle était membre du conseil d'administration. C'est la seule membre du conseil d'administration qui avait voté contre le licenciement et qui a démissionné. Ah oui, pardon, deux. J'avais oublié. Deux. C'est vrai. Et vous avez toutes les deux démissionné, je crois, à la suite de ça. Voilà, c'est ça. Pardon. Autant pour moi, lui. Mais en tout cas, voilà, elle a démissionné du conseil d'administration aussitôt après le licenciement. Elle a témoigné au prud'homme. On a témoigné ensemble au prud'homme, d'ailleurs. Le prud'homme qui a été gagné. Enfin voilà, donc moi j'avais vraiment le souvenir de quelqu'un qui restait droite aussi. Alors certes, qui peut avoir une ouverture d'esprit, mais trop, c'est trop.
Voilà. J'hésitais, je ne savais pas si j'allais vous dire quelque chose. Et puis je vais faire quand même. J'avais déjà écrit pour ces obsèques. Je n'ai pas pu ni moralement ni physiquement y aller. Voilà. Et moi, ce que je veux dire, c'est merci Ghislaine. Je vais répéter quelques trucs, bien sûr. Merci pour ton militantisme, bien sûr. Ta défense inlassable des droits des femmes et des travailleuses. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais te remercier plus personnellement, comme amie si importante pour moi et ma vie à Orléans. Lorsque je suis arrivée à Orléans, pour raisons familiales, il y a une quinzaine d'années, c'est toi qui m'as permis de prendre contact avec Solidaire et aussi avec la SPTT, où je fais toujours de la marche nordique. C'est par le planning familial que nous nous sommes rencontrés. J'y étais bénévole, et toi, tu as su qu'il y avait quelques problèmes avec la direction. Nous en avons discuté, et puis décidé d'intégrer le CA de la SOS pour voir d'un peu plus près et apporter notre contribution aux prises de décision. Après quelques années, très peu, deux ou trois sans doute, suite à de graves désaccords, au moment du licenciement de Sarah, salariée très militante, nous avons rompu avec le planning. Mais Ghislaine et Annie, qui nous avaient rejoints, ne pouvaient pas en rester là. Et nous avons donc commencé les premières réflexions sur une nouvelle association qui allait devenir FTG 45. Ghislaine, je garderai toujours dans mon cœur les bons moments passés ensemble, en manif ou autour d'une bière, devenu un thé pour moi et une menthe à l'eau pour toi les derniers temps. Et bien sûr aussi de ton soutien dans les moments difficiles que je traversais. Tu as été un pilier de ma vie à Orléans. Merci.
Merci d'un mot parce que j'ai la gorge qui tremble un peu. Voilà, Ghislaine, elle était très importante pour moi. Et presque une maman, un peu. Et pourtant j'ai l'habitude de prendre la parole. voilà, j'en serais pas là. J'en serais pas là si j'avais pas eu le groupe de Ghislaine, de Annie, de Lynn, Bianca, Clémence, toutes les personnes après mon licenciement. Je ne serais sûrement pas présidente du planning aujourd'hui. Je ne ferais pas tout ce que je fais là aujourd'hui si elle n'avait pas été là. Il faut dire qu'elle était un peu chiante quand même sur le planning.
Elle lâchait bien.
Et moi, je me souviens que je n'ai pas réussi à lui faire changer d'avis sur des sujets féministes alors qu'elle était beaucoup dans l'échange et beaucoup dans la discussion. Et elle était toujours chercheuse d'avoir des points de vue différents. Je ne crois pas que j'ai réussi, mais en tout cas, ça a été hyper nourrissant. Voilà, et c'était toujours autour d'un verre. Elle m'a sauvé la vie, Ghislaine, à de plusieurs reprises dans ma vie. Je lui serai éternellement reconnaissante. Et voilà, il y a toujours Ghislaine. J'étais moins à Orléans ces dernières années. Et c'est vrai que du coup, c'était un peu plus compliqué pour moi. L'annonce de son décès a été très compliquée pour moi. Mais voilà, elle sera toujours là, évidemment. Et maintenant, je m'évite aussi avec des copines au National, avec les Rosies. C'était une Rosie aussi. Et voilà, donc il y a eu un message qui lui a été fait. Et un message même qui lui a été fait le 8 mars par Yuli, sur le camion. Et puis, les copines de Solidaire, Julie Ferroy, qui fait partie de Solidaire, s'excuse et elle apporte toutes les pensées à toutes et tous, pour Ghislaine et pour nous aussi. Mais je n'ai pas...
Radio Libertaire 89.4, l'émission Remue-Ménage féministe, vous a proposé un fémage à Ghislaine Gauvry, militante féministe et syndicaliste, qui est décédée au mois de décembre dernier, qui militait à Orléans. Elle faisait partie de Sud PTT et de la Commission Femmes Nationale de Solidaire. Et elle animait sur Orléans la Commission Femmes de Solidaire 45 et une association féministe en tout genre 45, dont elle a été la présidente jusqu'à la fin de ses jours. Merci Ghislaine pour tout ce que tu nous as apporté. Maintenant, quelques informations militantes. L'association SIAMS, Coordination internationale pour l'abolition de la maternité de substitution, vous propose un cycle de 4 formations pour comprendre, analyser et agir contre la gestation pour autrui, ou encore appelée maternité de substitution. Cette maternité de substitution se développe, hélas, rapidement, portée par des intérêts économiques puissants et une communication bien rodée. Mais que cache réellement cette pratique ? Quelles en sont les conséquences pour les femmes et les enfants ? Comment s'informer objectivement au-delà des discours marketing ? Ces sessions, au nombre de 4, auront lieu à la Cité Audacieuse, dans la salle des suffragettes, 9 rue de Vaugirard à Paris, dans le 6e arrondissement. De 9h à 13h pour 4 sessions, le 27 mars, le 17 avril, le 15 mai et le 19 juin. La séance du 27 mars sera consacrée au thème suivant: bébé sur commande, les dessous de la maternité de substitution. Le 17 avril, Faut-il légaliser cette exploitation ? Vous comprendrez ainsi les rouages économiques et juridiques de la GPA. Le 15 mai, faut-il normaliser l'exploitation ? Vous comprendrez, vous découvrirez les stratégies des promoteurs de la GPA. Et enfin, la séance du 19 juin sera consacrée à des témoignages qui éclairent l'exploitation par des témoins, des femmes qui vont raconter ce qui leur est arrivé. Je vous lis maintenant une tribune qui annonce qu'enfin, pour les personnes victimes de la prostitution, quand elles voudront en sortir, la location financière prévue par la loi de 2016 a été revalorisée après presque 10 ans de lutte. En effet, les associations du collectif FACT, qui regroupe plusieurs associations, actrices et acteurs de terrain et des survivants de la prostitution, s'est mobilisée depuis la loi du 13 avril 2016 pour que la location mensuelle soit revalorisée. Prévue à l'origine au montant dérisoire de 343 euros pour une personne seule, elle sera aujourd'hui au niveau du RSA, à savoir dans les 600 euros environ, 635 euros. C'est une petite victoire pour les victimes de la prostitution, mais cette allocation, dans le communiqué, on dit une allocation digne. Moi, j'aurais envie de mettre ce mot « digne » entre guillemets, parce que 635 euros, c'est quand même en dessous du seuil de la pauvreté. Les signataires de cette tribune appellent également de leur vœu qu'une circulaire interministérielle contraigne les préfectures à respecter les droits des victimes étrangères, victimes du système prostitutionnel. Depuis plusieurs années, l'accès au parcours de sortie de prostitution est rendu plus difficile. Que ce soit en amont, au cours de ce parcours ou à la fin, des obligations de quitter le territoire français sont délivrées à des femmes objectivement victimes du système prostitutionnel à qui l'État français devrait accorder protection et assistance. En avril prochain, à l'occasion de l'anniversaire de la loi de 2016, nos associations rendront un rapport précis sur l'état de la prostitution en France et la mise en œuvre de la loi. Ils ont déjà publié en 2021 un rapport qui montre les effets de la loi de 2016, notamment au travers de l'impact de l'épidémie de coronavirus et du confinement, avec des objectifs, avec des enjeux liés à la prostitution des mineurs et des jeunes majeurs, qui revendiquent une politique publique ambitieuse avec une réelle mise en œuvre sur tout le territoire. Vous pouvez trouver ce rapport de 2021 sur le site de la Fondation CELES, fondation SCE2LES.org. Voilà, il est toujours temps de s'informer sur ces phénomènes qu'on connaît mal et qui nous souvent présentés de façon injuste et tendancieuse en faveur en fait du système prostitutionnel et non pas en combat du système prostitutionnel qui est un système inhérent au système patriarcal et qui est dangereux et délétère pour l'ensemble des femmes et des hommes, avec leur vision d'une sexualité concurrentielle, commercialisée, etc. Je vous propose maintenant de noter la date du 26 juin 2025. En effet, aura lieu un colloque organisé par l'ANR Prodige et le MAJ, le laboratoire du CNRS consacré au marché du travail et au genre. Il propose un colloque intitulé « Recruter à l'aveugle ?» point d'interrogation. La deuxième session de ce colloque, la première a déjà eu lieu mais je ne peux pas vous dire la date, la deuxième session de ce colloque consistera en une table ronde autour du dossier « Le genre du recrutement ». Ça sera le thème du prochain numéro de la revue « Travail, genre et société » édité par le MAJ. Numéro 53. Les intervenantes seront Karim Amou, Hélène Mallarmé, Sylvie Monchâtre, Olivier Quéré, Regina Hatzipetrou-Andronicou et Hyacinthe Ravet de l'équipe Prodige. Si vous allez sur le site du MAGE, mage.cnrs.fr, vous trouverez plus d'informations et le programme complet à venir. Je vais maintenant vous proposer de participer à une campagne syndicale qui n'est pas spécifiquement féministe, mais qui me tient à cœur, car c'est une campagne qui est initiée par Arab Workers Union, un syndicat de travailleurs et de travailleuses palestiniens, et qui est relayée par le réseau intersyndical de solidarité et de lutte, et qui vous propose donc une action. Le syndicat des travailleurs arabes poursuit ses activités pour le paiement des salaires et le respect des droits des travailleurs et des travailleuses de Gaza qui travaillaient pour des employeurs israéliens avant la guerre. Les travailleurs palestiniens de la bande de Gaza ont payé un lourd tribut à la guerre d'agression lancée par Israël contre la bande de Gaza. Dans les premiers jours de la guerre, les autorités israéliennes ont pris la décision de retirer les permis de travail de 18 000 travailleurs de la bande de Gaza. En outre, la police et l'armée israélienne ont arrêté des milliers de travailleurs et les ont placés dans des centres de rétention en Cisjordanie, centre contrôlé par l'armée israélienne. Très vite, le syndicat des travailleurs arabes, dont le siège est à Nazareth, a déposé un recours auprès de la Cour suprême israélienne pour exiger que les autorités israéliennes libèrent immédiatement ces travailleurs. Un certain nombre ont donc été libérés, mais pas tous. Un enquêteur de terrain du syndicat des travailleurs arabes à Gaza, le camarade Mahmoud Al-Ghoul, a recueilli 76 dossiers de plaintes et des témoignages de travailleurs de la bande de Gaza. On s'attend à ce que ces dossiers augmentent considérablement dans les jours à venir si la période de trêve entre le Hamas et Israël a bien lieu. Le département juridique du syndicat des travailleurs arabes a envoyé des lettres à un certain nombre d'employeurs israéliens et leur a demandé de payer les droits des travailleurs. Il est regrettable que la réponse de ces employeurs israéliens ait été un refus catégorique de payer les salaires en prétendant que ces travailleurs ne travaillaient pas pour eux ou qu'ils étaient des terroristes fidèles à une organisation terroriste. Au vu de cette situation, il est clair que les employeurs israéliens n'ont aucune intention de reconnaître les droits des travailleurs et de payer leur salaire. Et il n'y aura donc pas d'autre choix pour le syndicat que de prendre des mesures légales devant les tribunaux du travail afin d'obliger les employeurs à payer les salaires. Bien sûr, tous ces dossiers à défendre ont un coût, ne serait-ce que pour le frais d'ouverture, il faut déjà dépenser 536 shekels, soit 132 euros. Nous vous appelons donc à contribuer à cette campagne selon vos capacités et vos aptitudes. Pour avoir de plus d'informations, allez sur le site du réseau syndical international de solidarité et de lutte, laboursolidarity.org, et vous cherchez l'article sur les travailleurs palestiniens. Si vous êtes angliciste, vous pouvez aussi écrire à arab.workers.union48@gmail.com, qui est la messagerie du syndicat des travailleurs arabes de Gaza. Merci pour eux.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines. Mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines. Mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Du matin au soir nettoie les sardines. Et puis les font frire dans de grandes bassines.
Du matin au soir nettoie les sardines. Et puis les font frire dans de grandes bassines.
Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines. peine sardine.
Écoutez, brûle leur sabot, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, brûle leur sabot, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Écoutez, brûle leur sabot, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, brûle leur sabot, sardine.
Écoutez, brûle leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, brûle leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
À bout de fatigue pour pas s'endormir, elles chantent en chœur, il faut bien tenir.
À bout de fatigue, il faut pas dormir, elles chantent en chœur, il faut bien tenir.
Écoutez, brûle leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, brûle leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Et bien trop souvent vit dans la misère.
Malgré leur travail, nos gardes salaires. Et bien trop souvent vit dans la misère.
Écoutez, brûle leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, brûle leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez, brûle leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, brûle leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Un jour tout ensemble ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève.
Un jour tout ensemble ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève.
Écoutez, brûle leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, brûle leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Écoutez, brûle leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, brûle leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Dans la ville rouge, solidaires, et de leur victoire les femmes sont fières.
Dans la ville rouge on est solidaires, et de leur victoire les femmes sont fières.
Écoutez, brûle leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, brûle leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Écoutez, brûle leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, brûle leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
À Douarnenez, depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
À Douarnenez, depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
Écoutez, brûle leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, brûle leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
Écoutez, brûle leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, brûle leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Remue Ménage Féministe, comme chaque mardi de 12h30 à 14h30. Si vous souhaitez soutenir Radio Libertaire, allez sur le site de la radio, vous y trouverez un bon de souscription que vous pourrez télécharger et envoyer votre contribution, 145 rue Amelot à Paris, dans le 11e arrondissement. En effet, Radio Libertaire vit essentiellement grâce au soutien de ses auditrices et de ses auditeurs et au bénévolat de ses animatrices et animateurs. Je vous propose maintenant la rubrique « Dans la médiathèque de Remue Ménage Féministe, on trouve ». J'ai repéré notamment un livre écrit par Sarah Durieux, « Militer à tout prix ? Pourquoi nos collectifs nous font mal et comment les soigner ?» paru aux éditions Hors d'atteinte, équivaut 20 euros. Comment cesser de reproduire des logiques de domination dans nos collectifs et rendre nos relations plus saines ? Pourquoi est-ce si difficile d'agir collectivement ? Celles et ceux qui créent ou rejoignent des collectifs, notamment militants, en font souvent une expérience négative. Partout dans nos vies, au travail, dans nos familles, dans nos groupes d'amis, nous perpétuons, hélas, une culture qui écrase, exclus ou fragilise. Alors qu'il s'élève contre ce modèle, le militantisme n'y échappe pas. Après 10 ans passés à travailler avec de petits collectifs, de grandes ONG et des individus engagés, mais aussi à observer ses propres comportements, Sarah Durieux, qui a mené pour ce livre de nombreux entretiens avec des personnes investies dans divers mouvements, s'intéresse à ce qu'elle identifie comme une des plus grandes menaces contre notre émancipation et propose des pistes pour en sortir. Voilà, je ne peux m'empêcher de penser à Ghislaine Gauvry, dont je viens de parler longuement pendant cette émission, parce qu'elle était de celles qui savaient faire travailler collectivement des personnes qui n'étaient pas forcément toujours d'accord entre elles. Encore merci, Ghislaine, pour ton apport. Je vous propose maintenant un autre livre, « Faire justice, moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes ». Il a été écrit par Elsa Deck-Marceau et paru à la Fabrique Édition. Là où il est admis que le recours à la police en cas de violence n'est pas la solution, mais plutôt un problème supplémentaire, la tentation est de s'y substituer. Si l'intention est louable, son application l'est moins. Les mesures sont parfois expéditives et les outils pour faire justice sont encore profondément empreints d'une philosophie punitive. Menaces, exclusion, harcèlement, dénonciation publique et discréditation politique. Comment sortir de cette impasse? La question est d'autant plus difficile qu'elle surgit au moment où les forces réactionnaires mènent une large offensive contre le wokisme pour mieux protéger ceux qui organisent les violences dans nos sociétés. Écrit par une militante guine, ce livre propose une critique fine du moralisme progressiste et des pratiques punitives dans les luttes sociales. En se saisissant d'exemples concrets rencontrés au gré de son militantisme et en discutant précisément l'abolitionnisme pénal, elle pose les jalons d'une justice transformatrice inventive, capable de prendre soin des victimes et de transformer les individus comme les groupes. Endiguer les violences, c'est aussi ne plus craindre le conflit, ne plus avoir peur de lutter. Elsa Deck-Marceau a cofondé Fracas, un collectif queer et féministe d'entraide militante, à la prise en charge des conflits et des violences en milieu intracommunautaire. J'ai vraiment très envie de lire ce livre parce qu'effectivement, dans un certain nombre d'organisations aujourd'hui, d'organisations militantes, associatives, syndicales, quand on est face à des victimes de violences sexistes et sexuelles par des compagnons de lutte, on est souvent démunis pour agir et effectivement, le risque est grand de reproduire la justice injuste de l'État bourgeois et du capitalisme. Et de toutes nos habitudes de pensée, hélas, qu'on a toujours du mal à connaître et à combattre. Et je pense que le livre d'Elsa Deck-Marceau peut nous aider à progresser dans ce domaine. Un autre sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, l'endométriose, cette maladie méconnue des femmes, qui touche une femme qui a ses règles sur 10. Comment expliquer que cette maladie si douloureuse soit encore traitée par le mépris et l'ignorance? Il faut 7 à 10 ans pour obtenir un diagnostic et il n'existe aucun traitement réellement satisfaisant. Dans son ouvrage, Marie-Héloïse Bassot, Endométriose, reprendre le pouvoir, paru aux éditions du Deux Tours, la psychanalyste démontre que cette pathologie est aggravée par le patriarcat, le validisme et le capitalisme. Elle appelle à se saisir collectivement de ce problème de santé publique majeur en se plaçant toujours du côté des personnes qui souffrent. Danielle Bousquet est une militante féministe et une ancienne députée. Elle a été la première présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes entre 2013 et 2019. Comme elle n'est plus députée, comme elle n'est plus présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, elle a eu le temps d'écrire un livre qui s'appelle « Le féminisme pour les nuls », le livre de référence pour comprendre l'histoire et les enjeux actuels du féminisme. Qu'on s'en revendique ou qu'on s'en méfie, le féminisme est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Il est aussi, parfois, caricaturé ou instrumentalisé. Mission impossible d'y voir sa richesse, ses conquêtes. Ça, c'était avant « Le féminisme pour les nuls ». Pour connaître l'histoire du féminisme, cet ouvrage revient sur les grandes avancées des courants de pensée et des voies féministes. Pour comprendre les inégalités entre les sexes, il fournit toutes les clés de décryptage, utiles, secteur par secteur. Au sommaire, les ABCD du féminisme. Le féminisme en mouvement, des vagues de conquêtes. Le féminisme en idée, des courants de pensée. Le féminisme en acte. Lutter contre les inégalités et les débusquer. Une partie de 10, 10 personnalités, 10 films, 10 titres, 10 conseils, 10 actions concrètes. Voilà, le féminisme pour les nuls. C'est vrai que parfois, quand on est entre féministes, on a un langage un peu codé et que pour certaines ou certains d'entre vous, vous avez besoin de retrouver des racines du féminisme, je vous conseille d'acquérir ce livre, soit vous-même, soit par l'intermédiaire de votre bibliothèque. J'ai aussi repéré un autre livre. Sophie Lévis a écrit « Pour en finir avec la famille, abolir, prendre soin, s'émanciper ». C'est paru aux éditions Hystérique et Associés et ça vaut 15 euros. L'autrice féministe germano-britannique Sophie Lévis le dit d'emblée, proposer d'abolir la famille n'est pas une mince affaire, tant nombre d'entre nous y sommes attachés. Elle ne nie pas notre désir collectif d'amour et d'attention, mais explique avec rigueur et humour comment la structure familiale ne peut pas répondre à tous ses besoins. Parce qu'elle induit une privatisation du soin, parce qu'elle repose sur des concepts qui sont des concepts de propriétaires, du couple, du sang, des gènes. La famille ne peut en aucun cas nous mener à une libération collective à l'heure où les plus vulnérables sont attaqués de toutes parts. Je ne peux m'empêcher de penser à Voltairine de Clare et à son petit livre « Le mariage est une mauvaise affaire ». Ce devrait donc être le béaba du socialisme et non une excentricité marginale de quelques cuirs d'ultra-gauche que de chercher à atteindre un régime de cohabitation et de collectivisation de l'alimentation, des loisirs, des soins aux personnes âgées ou aux personnes malades et de l'éducation des enfants. Sophie Lévis se base pour cela sur des penseurs allant de Charles Fourier à la révolutionnaire russe Alexandra Kollontai, en passant par la féministe radicale états-unienne Shulamit Firestone et sur de multiples récits de lutte vivante, féministe, cuir, noire, autochtone. Car l'abolitionnisme de la famille n'est pas et ne peut rester une théorie. Alors, vive la camaraderie et d'autres mots qui n'ont pas encore été inventés. J'ai trouvé la référence de ce livre sur le site reporter.net.
Personne va me casser les pieds, a dit Violette à son boucher qui la toisait de ses lunettes. Et pour la petite dame, ça sera quoi? Où ça la petite dame? J'en vois pas, c'est pas une petite dame, Violette. 80 ans et des poussières, plus de 20 fois arrière-grand-mère, votre dédain lui fait pas peur. Les quelques années qui lui restent, elle veut les vivre à fond la caisse, elle aime pas les rétroviseurs. Et c'est pas un marchand de barbac qui va lui casser la baraque. La 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 la. Venez pas dire que c'est gentil, que c'est un terme de sympathie, gardez votre condescendance. Savez-vous à qui vous parlez? Ne blessez pas sa dignité, ne la replongez pas en enfance. C'est une dure enfant de la guerre, c'est du chien dent, pas de la bruyère. Elle a eu faim, elle a eu froid. Elle a grandi coûte que coûte, avec la neige sur la route, les pieds sur des semelles de bois. C'est pas un professeur d'histoire qui va lui dire ce qu'il faut croire. La 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 la. Elle a eu peur de rien, elle savait tenir tête aux chiens, aux menteurs et aux imbéciles. Elle a su se jeter à l'eau et repêcher quelques marmots d'une noyade trop facile. Sous sa coiffure en courant d'air, elle a plus de vocabulaire que vous n'en connaîtrez jamais. Pour ce qui est de l'art de vivre, elle en sait plus que tout vos livres. Nommer un arbre, elle le connaît. Et c'est pas un marchand de sornettes qui va lui en mettre plein la tête. La 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 la. Elle a fabriqué des enfants, pas pour en faire des perdants, et elle a côtoyé des hommes. Celui qui la couve des yeux, c'est pas non plus un petit monsieur. Il mérite le respect tout comme Violette, c'est pas une petite dame. Elle a vécu sa part de drame. Et si un jour elle doit tomber, quand vous la tiendrez dans vos griffes, comprenez qu'elle se rebiffe, vous qui viendrez pour la soigner. Et que c'est pas un marchand de médoc qui va lui dire qu'elle débloque. Mettez-vous bien ça dans la tête, c'est pas une petite dame, Violette.
Vous êtes toujours à l'écoute de Remue Ménage Féministe sur Radio Libertaire et vous venez d'entendre Anne Sylvestre, Violette, c'est pas une petite dame. Et en écoutant cette chanson, je ne peux m'empêcher de penser à Ghislaine Gauvry, à qui nous avons rendu fémage dans cette émission. C'était pas une petite femme, Ghislaine. Elle était une sœur de Violette. Dernière partie de Remue Ménage Féministe pour ce 18 mars. Quelques spectacles. Le 20 mars, au Luminor Hôtel de Ville, une soirée est dédiée à May Haïm, une poétesse et activiste. Il y aura des lectures par Marianne Mateus et Sarah Fila Bakabadio, suivies de la projection du film « Hoffnung im Herz » de Maria Binder. Le cinéma Le Luminor se trouve 20 rue du Temple, à Paris, dans le 4e arrondissement. Le film « Hoffnung im Herz » est un documentaire émouvant sur la vie et la mort prématurée de May Haïm, poétesse, universitaire et personnalité politique germano-ghanéenne. Elle est l'une des fondatrices du mouvement allemand noir. Ses recherches sur l'histoire des Afro-Allemands et Afro-Allemandes, mais aussi sa poésie politique, l'ont fait connaître en Allemagne et dans le monde entier. Elle écrivait dans la tradition de la poésie orale et se sentait fortement liée à d'autres poétesses noires de la diaspora. La poésie lui a permis de confronter la société allemande blanche à ses propres préjugés. Ses interventions et ses poèmes révèlent sa quête d'identité et éclairent la genèse du terme afro-allemand. Ce film porte un regard profond sur le vécu d'une jeune femme noire engagée lors de la réunification allemande. Et puis, après 60 ans de métier, voilà trois petits tours avec Véronique Pestel. Elle sera à Troyes, dans l'Aube, le vendredi 28 mars à 20h, au théâtre Le Quai, 5 rue Léon Coutura à Troyes, pour un spectacle intitulé « Pest Off ». Elle sera les 10 et 11 avril en Suisse, à Lutry, à 20h, pour un spectacle qui s'appelle « Qui croire ?». Ça se passera à la Villa Maigros, 20 avenue du Grand Pont, 1095 Lutry. Elle nous dit « Et puis ensuite, je descends de mon tabouret et on pourra se voir autrement ». Je suis vraiment triste de ne pas pouvoir la voir une dernière fois sur scène, car j'aime beaucoup les chansons de cette femme. Mais vous pouvez les retrouver sur son site véroniquepestel.com. Une autre chanteuse, Mimi Mitchell, que nous aimons aussi beaucoup à Remue Ménage Féministe. Elle va assurer la première partie de l'artiste Johanna avec la sortie de son album Au Bord. Johanna est une artiste indépendante, ça veut dire non financée, qui a déjà publié 7 albums. Elles seront ensemble le 19 mars à Gif-sur-Yvette, dans la banlieue parisienne, au centre Benoît-Frachon, et le 20 mars au Zèbre de Belleville, un cabaret parisien sur le boulevard de Belleville à Paris. Le 22 mars, elles sillonneront le quartier de l'Opéra à Paris pour une visite chantée et inédite, les cabarets lesbiens d'avant-guerre, avec Anouk Colombani. Le 23 mars, Mimi Mitchell fait cap sur Avignon pour le festival Girl, 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 un mois de féminisme culturel. Et le mercredi 2 avril, vous pourrez aller l'écouter à la Manufacture, au métro Père-Lachaise, pour son concert à partir de 20h30. Dernier, pas spectacle, mais exposition que je vous propose, c'est Mademoiselle Martine qui revient en 2025 avec une exposition « Le temps du féminin ». Pour cette exposition, elle a fait le choix de croiser ses mots avec l'art visuel en laissant place à un autre imaginaire et en créant ainsi une version agrandie et mutante d'elle-même. Les extraits de texte des 16 titres soigneusement sélectionnés entrent en résonance avec les visuels. Le QR code intégré dans chaque création renvoie vers la musique de l'œuvre, permettant tout au long de l'exposition une immersion complète dans l'univers de l'artiste, tout en laissant une place libre au ressenti de chacun. Puissantes, les créations questionnent, dénoncent, interpellent, pulsent, chuchotent, tissent nos rêves. Elles nous affranchissent de la pesanteur du temps. Les chants s'ancrent dans une actualité sombre, la guerre, les féminicides, les migrations, la crise climatique. Ils parlent avec sensibilité d'amour, de rupture, de deuil. Ils abordent avec délicatesse la fin de vie. Ils questionnent notre relation avec l'intelligence artificielle. Vous pourrez découvrir Martine et ses créations à Paris, à la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, qui est aussi le siège de Radio Libertaire. Elle y sera du 30 au 30 avril et le vernissage est prévu le 3 avril à partir de 19h. Ensuite, son exposition se transporte au Café de la Danse, 5 passage Louis-Philippe, du 2 mai au 13 juillet. Et puis pour l'été, elle sera à Montreuil, une partie à l'Alimentarie, du 1er juin au 31 août, 6 place du marché, et du 1er avril au 30 juin, au Kraft, 11 avenue de la Résistance. Voilà, des belles sorties en prévision. Pour aujourd'hui, Remue Ménage Féministe vous dit au revoir à toutes et à tous, vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous mardi 25 mars à partir de 12h30. Vous y entendrez les interventions qui ont eu lieu lors de la soirée organisée par le collectif Avortement en Europe, les femmes décident, soirée organisée le 17 janvier 2025 pour les 50 ans de la loi Veil, 17 janvier 1975, 17 janvier 2025, la loi sur l'avortement en France à 50 ans. Merci à vous de m'avoir écouté et veuillez excuser mes incertitudes techniques. À bientôt.
C'est le petit notable, il est maire ou patron, conseiller général, ou les trois à la fois, c'est en France banal. Il est petit, petit, dans tous les sens du terme. Il est vieux, avec tout ce que ce mot renferme. De rang, c'est renfermé, gros ou maigre, il est gras.
L'une de l'autre ignorée, on s'est connu, on s'est regardé. On s'est parlé, on a chanté, avec l'envie de se raconter nos histoires et toutes nos idées. Mais tout ça s'était vite plié, le répertoire était pas épais. Où sont passées les héroïnes de la lutte et du quotidien? D'elles il ne reste presque rien. Hé hé ha, hé hé ha, hé hé ha, hé hé ha, hé hé ha. Dans les champs, lorsqu'on est présente, on est souvent seul et fragile. On se lamente dans une attente, soit repoussante ou bien sublime, objet sexuel ou bien victime. Dans cet idéal libertaire, nous sommes bonnes au linge à étendre. On ne veut plus être de ménagères, de la chair tendre à défendre. On ne veut plus se laisser taire. Hé hé ha, hé 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 ha, hé hé ha, hé 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 ha. Comment faire une révolution quand dans nos imaginations, dans tous ces rôles bien genrés, nous nous retrouvons confinés et nos idées polluées. Quand on ne trouve dans nos chansons ni de guerrières ni d'héroïnes, et on vous parle même pas d'Aiguine, tout ce qui nous ferait rêver gamine, qui ferait rêver les frangines. Et si les chants qui nous ressemblent, on les écrivait tout ensemble, des chants qui racontent nos histoires et disent nos rages et nos espoirs, donnent du courage et du pouvoir. Hé hé ha, hé 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 ha, hé hé ha, hé hé ha. Si
l'on se retrouvait frangine, ça nous ferait gagner du temps. Unis sans nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, qu'on en dirait 20 fois autant. Et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens. Et qu'on ferait changer les choses, allez on ose, il est grand temps. Allez on ose, il est grand temps.